Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, nous allons nous Kabambi. Depuis le mois d'avril dernier, plus de 10 000 ressortissants du Soudan du Sud ont trouvé refuge au Congo-Kinshasa, précisément dans le territoire d'Arouan, Ituri. Ces personnes fuient des combats qui se déroulent depuis plusieurs semaines dans leur pays, précise la Commission nationale de réfugiés CNR. Indignation du FCC, Front commun pour le Congo, à la suite de l'annonce par le ministre de la Justice de l'injonction adressée à la justice militaire d'engager des poursuites contre son autorité morale, Joseph Kabila. Le FCC dit dans son communiqué rejeter cette 1e tentative de violation de la Constitution et de loi de la République. Et puis, vers la fin de ce journal, le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Ouélé va s'entretenir avec André Kitenge. Emmanuel Arama Odingo-Kiro va parler des conséquences du phénomène des éleveurs Mbororo dans cette province. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Environ 10 000 ressortissants du Soudan du Sud ont franchi la frontière congolaise dans le territoire d'Arou, en Ituri, depuis le mois d'avril pour trouver refuge ici en RDC. D'après le responsable de la Commission nationale des réfugiés CNR, ces personnes fuient les combats qui se déroulent depuis plusieurs semaines dans leur pays. Pour l'instant, elles vivent dans des familles d'accueil en attendant leur identification pour une éventuelle prise en charge. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Selon Karim Adidi, le responsable de la CNR en territoire d'Arou, c'est depuis le 2 avril 2025 que le territoire d'Arou accueille des réfugiés en provenance d'une dizaine de localités du Soudan du Sud. Ils arrivent par vagues, explique-t-il, avec leurs effets nécessaires, ramassés généralement à la hâte avant de s'enfuir. Kolé, Okaba et Olendere sont des villages où sont installés ces réfugiés. Robin Djalonga, le coordonnateur provincial de la division de la protection civile, demande aux services compétents de bien faire le tri, de peur de faire entrer sur le sol congolais des hommes en armes dans cette partie de la province de l'Ituri.
L'inquiétude que présente cette population est que, avec cette arrivée, on estime qu'il y a probabilité que certains éléments de cette rébellion sud-soudanaise puisse aussi s'infiltrer parmi la population, ce qui mettrait à risque la sécurité sur les frontières congolaises.
Ces réfugiés qui ne reçoivent pas encore d'assistance humanitaire vivent dans des familles d'accueil, affirme à Radio Okapi Karim Adidi. C'est en attendant le démarrage de l'opération de leur identification avant de plaidoyer auprès du gouvernement et ses partenaires. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, la première vague de déplacés en provenance de la localité de Lunyasenge est arrivée à la cité frontalière de Kasindi dans la soirée de samedi. Lunyasenge est une localité située à une cinquantaine de kilomètres au bord du lac Édouard dans le territoire de Lubero. Elle est passée sous le contrôle des 123 depuis le vendredi dernier. Cette situation inquiète la société civile du groupement de Basongora qui demande aux services de sécurité d'assurer la prise en charge de ces personnes vulnérables et aussi de mettre en place des mécanismes sécuritaires afin d'empêcher toute infiltration. Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile dans le groupement de Basongora, l'explique au téléphone de Marc Marofimbo.
L'attaque de Lunyasenge possède des effets néfastes sur les tissus sociaux des Kasindi Lubiria. Vous savez très bien que c'est depuis un certain moment Kasindi est devenu un centre de refuge pour les citoyens congolais en provenance des entités qui ne bénéficient pas d'une stabilité sécuritaire. Il s'observe maintenant l'arrivée de plusieurs vagues de déplacés en provenance de Lunyasenge et des entités environnantes. C'est quelque chose qui nous inquiète au niveau de la société civile. Nous appelons les autorités politico-administratives, également les membres du comité local de sécurité, ainsi que les chefs de base, les chefs des 10 maisons, les chefs des avenues, les chefs des quartiers, de se mettre au travail afin d'empêcher l'infiltration de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut toutefois utiliser ces circuits de déplacement massif de la population vers la cité de Kasindi à la frontière entre la RDC et l'Ouganda pour en profiter.
Nos efforts pour avoir la réaction de l'armée à ce sujet n'ont pas abouti. Au Nord Kivu toujours, des centaines de familles déplacées sont récemment arrivées à Masisi Centre. Originaires de divers villages, des groupements Boabo, Banfuna et même Lubériki, à la limite du territoire de Walikale, elles fuient les violents affrontements dans leur localité. À Masisi Centre, faute de trouver refuge dans les lieux habituels tels que les familles d'accueil, les écoles, les églises ou les bâtiments abandonnés, plusieurs familles se sont installées plutôt dans la prison centrale de Masisi. Elles espèrent voir l'arrêt des affrontements dans leur village afin de ne pas rester longtemps dans cette prison. Le point avec vous, Élise Kavira.
La prison centrale de Masisi Centre offre un refuge inattendu à des familles déplacées. Les cellules autrefois occupées par les détenus qui ont fui lors de l'occupation de la cité par le M23 accueillent désormais ces populations en quête d'abri. Pour ces nouveaux arrivants venus des villages Shoa, Muhondo, Luhinzi, Lambula, Miancha, Hembe et d'autres localités, l'urgence était de trouver un toit. Cependant, les conditions de vie sont très difficiles, comme en témoignent ces mères des familles.
Nous sommes très affamés ici avec nos enfants. Ils n'ont même pas d'habits. Nous travaillons pour la population d'ici pour avoir de quoi nourrir nos enfants. Et c'est très difficile. Par exemple, je peux aller transporter les produits des champs. On me paye 2000 francs. Avec cette somme, j'achète un peu de patates pour les enfants. Qu'on nous aide avec une assistance à vivre, les habits, des casseroles, des couvertures et même des bidons pour puiser des. En tout cas, qu'on nous aide, car nous souffrons beaucoup.
Ces mères qui vivent avec leurs enfants dans cet environnement carcéral espèrent la fin des hostilités pour retrouver leur maison ainsi que leur champ, même si elles ne sont pas sûres d'y trouver des récoltes.
Dans le nord Ubangi, l'association des ressortissants de Kotakoli à Sorko exige la délocalisation des militaires en recyclage au centre d'entraînement commando de Kotakoli. Cette demande est l'une des recommandations de cette association à la suite des méfaits commis par ces militaires la semaine dernière sur la population après le décès de leur compagnon d'armes par la foudre. Dieudonné Tongolo, président de la Sorko, demande par ailleurs la réparation des préjudices que ces militaires ont causés en incendiant les boutiques des commerçants et des maisons de quelques habitants sous prétexte que ce sont les autochtones qui seraient auteurs de cette foudre qui a tué les leurs. Il est joint par Askin Zigbia Tayoro.
En tenant compte des tristes événements qui étaient survenus en date du mardi 22 avril à Kotakoli, nous saluons les actions ponctuelles des chefs de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui aussitôt saisi du dossier n'a pas hésité en un seul instant pour dépêcher d'urgence des vaillants militaires qui ont vite maîtrisé la situation. En dépit de ça, nous recommandons ce qui suit. La réparation par le gouvernement central de tous les dégâts causés par ces inciviques incontrôlés, d'indemniser les victimes, nos chers commerçants et la population. La délocalisation pure et simple de bourreaux fuyards de guerre, car le centre d'entraînement commando de Kotakoli n'a pas été créé pour les fuyards et bandits, mais pour la formation des militaires nouvelles recrues.
Le Front commun pour le Congo, FCC, exprime sa profonde indignation suite à l'annonce par le ministre de la Justice de l'injonction adressée à la justice militaire d'engager des poursuites contre son autorité morale, suivie d'une requête pour obtenir du Sénat la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Dans un communiqué publié samedi soir, le FCC dit rejeter avec la plus grande fermeté cette énième tentative de violation de la Constitution et des lois de la République par le pouvoir de Kinshasa. Alain Hirong.
Le FCC rappelle à cet effet les prescrits suivants du droit positif de la RDC, à savoir qu'en tant qu'ancien président de la République élu, le président honoraire Joseph Kabila Kabange est de droit sénateur à vie au terme de la Constitution en son article 104 alinéa 7, que ses statuts étant donc d'assises constitutionnelles et non parlementaires, il est inaliénable, imprescriptible et sans coloration politique. En conséquence, il ne peut en aucun cas faire l'objet de remise en cause pour des considérations politiques ou judiciaires, ni par le bureau du Sénat, ni par aucune autre autorité administrative ou judiciaire, indique le communiqué. Que le cas échéant, toute poursuite à l'encontre du président honoraire doit impérativement suivre la procédure définie Saint-Denis par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens animateurs des institutions qui, en son article 8, stipule pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur.
Affaire Matata Ponyo, guéguerre entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle indique que dans une correspondance datée du 2 mai dernier, lettre de Dieudonné Kamuleta adressée à Vital Kamerhe, que la loi lui permet de continuer de juger l'ancien Premier ministre sur le dossier Bukangalonzo et même sans l'autorisation des poursuites et la levée des immunités comme suggéré par l'Assemblée nationale. Le président de la Cour constitutionnelle qui répondait à la lettre du président de l'Assemblée nationale renvoie son président Vital Kamerhe au respect de l'article 151 de la Constitution. Jeff Ngoy.
Faisant référence à la lettre du président de l'Assemblée nationale sur une des dispositions constitutionnelles selon laquelle aucun député ne peut être poursuivi ni arrêté en cours de session qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, Dieudonné Kamuleta explique que l'emploi des termes poursuivi et arrêté dans le contexte de la procédure pénale renvoie à la phase d'instruction préjuridictionnelle. Autrement dit, écrit Kamuleta, cette disposition s'applique au cas où le député aurait commis une infraction et où le ministère public envisage d'engager des poursuites à son encontre ou procéder à son arrestation. Or, soutient-il, tel n'est pas le cas. En l'espèce, la personne concernée est déjà traduite devant une juridiction de jugement et l'organe de poursuite s'est déjà dessaisi du fait de la requête aux fins de fixation d'audience. Nous sommes actuellement dans une phase juridictionnelle et non dans celle des poursuites, indique le président de la Cour. Et à ce stade où la Cour a déjà pris la cause en délibéré, elle est appelée à se prononcer sur toutes les questions de procédure et de fonds soulevés dans le cadre de cette instance, d'après le juge.
La communauté internationale a célébré le samedi 3 mai la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. En RDC, la tragédie sécuritaire et humanitaire qui frappe l'est de la RDC depuis plusieurs années n'a pas épargné les journalistes et les médias pris en étau entre différents groupes armés. Affirmation de l'ONG Journalistes en danger GED dans un communiqué publié à cette occasion. Au moment où s'annoncent des pourparlers diplomatiques pour un retour de la paix dans l'est du pays, GED en appelle à des actions urgentes pour mettre fin aux violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à la liberté de la presse qui se commettent dans les territoires sous contrôle de l'alliance AFC 1-23. Jean Gandou.
Pour GED, seuls des médias et une presse libre peuvent accompagner efficacement les dynamiques de paix en cours dans un environnement de sécurité pour les journalistes. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et ses milices rebelles ont fait des milliers de morts, provoqué des mouvements massifs des populations et réduit plusieurs médias locaux au silence. La progression des rebelles dans plusieurs localités sous leur contrôle et où ils tentent de soumettre les médias à leur idéologie a contraint une cinquantaine de journalistes à fuir les zones occupées pour trouver réfugient ailleurs. Le nombre des attaques ciblées contre les journalistes et les restrictions contre la liberté de l'information enregistrées depuis le début de l'année dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu est le plus important de toutes les provinces de la RDC. Il s'agit des menaces directes à l'intégrité physique des journalistes, des radios vandalisées, fermées ou censurées pour empêcher les journalistes d'être les témoins de toutes sortes d'exactions et des crimes qui se commettent sous l'administration de rebelles.
L'invité. Le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Uele est l'invité de ce journal. Emmanuel Arama Odingo Kiro s'entretient avec André Kitenge sur les conséquences du phénomène des éleveurs Mbororo dans cette province. Suivez.
Emmanuel Arama Odingo Kiro, bonjour.
Bonjour.
Bientôt une année que votre gouvernement a été investi. Parlez-nous des défis à relever par votre gouvernement.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La province du Haut-Uele fait face à plusieurs défis. On peut commencer d'abord dans le cadre des infrastructures. Nous avons des sérieux problèmes avec nos infrastructures routières. On a trouvé la province avec des routes pratiquement délabrées sur tous les axes. La RN25, l'axe Nyanya jusqu'à Isiro. RN N26, Isiro, Mungwere, Wacha, jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud, toutes ces routes-là étaient pratiquement impraticables. Et de cela s'ajoute encore la vétusté des ouvrages de franchissement. Tous nos ponts vieillis, en fait, ce sont des ponts hérités de l'époque coloniale jusqu'à ce jour, avec les tonnages des véhicules qui sont actuellement à fabrication. Les ponts n'étaient pas. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Mais aussi, nous avons d'autres défis que le gouvernement provincial tient à tout prix relever. Dans le domaine de la sécurité, nous pouvons dire que la province du Haut-Touélé, à part les cas des bandits à main armée qu'on peut enregistrer ça et là, la province est relativement calme. On peut noter aussi de temps en temps la présence des rebelles sud-soudanais dans les territoires de Faradje, et précisément à bas toute cette frontière-là, on note de temps en temps l'arrestation des rebelles Nafsa Sirto.
Vous avez évoqué l'aspect sécuritaire, mais il y a une question qui se pose avec acuité, c'est le phénomène des éleveurs Mbororo. Qu'en est-il? Il y a plusieurs plaintes, notamment ces éleveurs Mbororo, leurs bétails sont en train de ravager les champs des paisibles citoyens.
Oui, oui, effectivement, notre province, comme la province sœur de Bazouélé, fait face à la présence massive des éleveurs Mbororo. Et ces éleveurs impactent sensiblement les activités de la communauté locale. Nous, nous sommes réputés une province essentiellement agricole. Nos populations font les champs, mais la présence des éleveurs Mbororo impacte aussi leurs activités champêtres. Au-delà de ça, on les retrouve aussi dans des aires protégées. Le parc national de la Garamba est aujourd'hui envahi pratiquement par ces éleveurs. Ils sont nombreux dans les parcs, mais ça impacte l'environnement, l'écologie, tout ça. Mais aussi, il faut noter, ces éleveurs Mbororo, aujourd'hui, ils sont dans notre province il y a plus de 20 ans. Ils continuent à paître leurs vaches, ils continuent à commercer avec les bouchers de la région. Non seulement dans la province du Haut-Touélé, tous les territoires partent acheter le bétail auprès des éleveurs Mbororo. Mais curieusement, ce sont des éleveurs qui élèvent leurs bêtes sans remplir tous les prérequis. Qui dit prérequis? Ces éleveurs ne traitent pas leurs bêtes comme telles. Ils ne consomment pas du sel, ça c'est un problème. Ils ne vaccinent pas leurs bêtes. S'il y a le cas de maladie, les informations à notre possession font étendre qu'ils soignent leurs bêtes avec des produits destinés plutôt aux humains. Selon les vétérinaires, quand nous consommons ces bêtes-là, c'est vraiment un problème réel de santé publique dans notre région. Parce qu'il est urgent que ces éleveurs soient absolument encadrés. L'idéal, c'est de les voir retourner chez eux. Mais d'autant plus qu'ils ne sont pas encore rentrés. Nous pensons qu'il faut tout de suite là qu'on leur trouve peut-être un pâturage commun, qu'ils soient cantonnés là-bas, qu'on puisse suivre toutes les bêtes qui viennent de leur cheftel avant que ça soit consommé par la population.
Quelle est la politique de votre gouvernement en cette matière? Parce que ça fait plus de 2 décennies que ces éleveurs Mbororo sont sur le sol de la province du Haut-Touélé, mais aussi dans l'autre province sœur du Bazouélé. C'est quoi la politique du gouvernement pour essayer de mettre fin à ce phénomène?
Nous pensons que la question peut se traiter à plusieurs niveaux. C'est une question avec des enjeux à la fois internationaux, nationaux, mais aussi locaux. Tout de suite là, comme je venais de le dire, notre politique va d'abord se baser. Nous passons d'abord les cantonnés. Une fois cantonnés, qu'on essaie d'identifier qui est Mbororo, qui ne l'est pas, il a quoi. Ça, c'est les actions à mener à court terme à cette matière.
Est-ce que les éleveurs Mbororo menacent la sécurité de la province?
Oui, nous enregistrons des fois les plaintes de la population que ces éleveurs sont armés. Nous pensons que nos forces de défense ont tout intérêt de s'assurer et de surtout de certifier d'abord cette information et prendre des dispositions utiles.
Emmanuel Arama Odingo Kiro, merci.
C'est à moi de vous remercier et je salue tous les auditeurs de la radio Okapi.
C'est par ici que prend fin ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Debs Vita, journal coordonné et supervisé par Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.